for Dwayne and Barry.
Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission Polar.
La plus rock de la bande FM.
Bonsoir Corinne.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir à tous.
Et nous allons tout de suite commencer cette émission par vous annoncer un festival de Polar qui tiendra sa première édition dans un endroit tout proche, puisque c'est à Saint-Laurent-du-Var, dans un avenir tout très proche, puisque c'est le 28 et 29 avril prochain. Un plateau d'invités, une trentaine d'auteurs, très éclectiques, du roman noir, du thriller, des livres documentaires sur les affaires criminelles. En gros, il y en a pour tous les goûts. Il y a des animations pour les plus jeunes. Et évidemment, tout au long du week-end, il y aura des présentations d'auteurs ainsi que des tables rondes sur divers sujets. Parmi les auteurs, citons le parrain, c'est le moins qu'on puisse faire, Bernard Minier. Et puis des auteurs français de renom tels que Dominique Sylvain, Jean Gopel, Yann Manouk, René Frény. Il sera aussi beaucoup question d'Albin Michel. Et plusieurs auteurs étrangers seront même présents, en particulier l'Américain David Van ou le grec, Christos Markogiannis, qui vient d'ailleurs de faire paraître un roman chez Albin Michel. L'endroit, je vous l'ai dit, Saint-Laurent-du-Var, mais plus précisément à la salle de Boules, et évidemment, l'entrée est gratuite tout le week-end. Et pour avoir tout le programme et tous les renseignements, il faut aller sur les sites officiels de Saint-Laurent-du-Var, que ce soit de Saint-Laurent-du-Var ou de l'Office de Tourisme. En gros, de toute façon, c'est pas très dur. Googlez Polar Saint-Laurent-du-Var et vous tomberez dessus. Donc, il n'y a pas de problème. Et on y sera. Voilà. Comme ça, vous pourrez venir nous rencontrer. Patrick Pécherot, lui, il ne sera pas à Saint-Laurent-du-Var. Et c'est bien dommage, car vous auriez pu découvrir son dernier roman, qui s'appelle Evel, et qui est sorti fin mars à la Série Noire. La Série Noire, évidemment, aux éditions Gallimard. Dans ce très beau récit, une voix s'interroge. Enfin, elle ne fait pas que s'interroger, elle raconte. Cette voix, c'est celle de Gus. Comme dit Patrick Pécherot, l'éternel second, qui nous interpelle souvent cette voix, nous, le lecteur, qui sommes en quelque sorte les témoins, mais aussi un journaliste à qui il se confie, et ce journaliste, il est des fois un peu impatient. Alors Gus, il lui répond, les faits, et après, une vie se réduit-elle aux faits? Une minute même ne s'y résumerait pas. J'essaie de vous donner à voir ce qu'ils peuvent contenir les faits de méandres, de cheminements, de changements d'aiguillage et de tous ces fragments d'existence qui vous mènent. Un regard, une parole, un tournant de la route même peuvent vous changer. Alors les faits, ils sont pratiques, rassurants. Ils ne risquent pas de vous tournebouler. Si vous en êtes là, écrivez plutôt un rapport de police. Donc Gus, ce personnage, c'est évidemment pas un rapport de police qui va nous raconter, mais un moment de sa vie. Et sa voix, elle va nous transporter à la fin des années 50. Un moment très particulier, la Deuxième Guerre mondiale est encore dans toutes les mémoires, dans toutes les chairs. Et celle d'Algérie, la guerre d'Algérie, exacerbe les haines.
Les événements.
Oui, non, la guerre d'Algérie exacerbe les haines entre deux communautés. Gus, le personnage principal, il survit grâce à André. André l'a carrément sauvé du ruisseau, il lui a donné du travail, et tous les deux trimballent des livraisons dans un vieux citron. Alors, peut-être qu'il faut quand même que je dise, pour le plus jeune de nos auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'un vieux citron ? Citron, ça vient de la marque Citroën, c'est un camion assez petit d'ailleurs et qui permettait de faire des livraisons à cette époque-là. Il y en a encore quelques-unes. Peut-être effectivement on retrouve des citrons dans les mêmes petites routes du Jura dans lesquelles dans lesquelles travaillent André et Gus. Alors, Gus, il va nous raconter tout ça et en ce rude hiver, les affaires vont mal. Les deux tâcherons sont déjà dépassés par le productivisme et les nouveaux camions. Les fameuses 30 glorieuses, ça va pas être pour eux. Ils se traînent de rade en hôtel miteux. Et ces instants où, sur ces routes verglacées, ils ne sont pas loin du salaire de la peur. Ça aussi, c'est un film assez ancien avec Yves Montand et Charles Vanel. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Et effectivement, la route peut faire peur. Alors la route, voilà comment Gus en parle. Deux petites phrases. C'est un monde, la route. Il a ses familles, ses tribus, ses hors-tout et ses aristos. Quelques lignes plus loin. Tous sont équilibristes de l'incertain et des fins de semaine. Donc pour eux, le seul havre de paix, le refuge, c'est chez Simone. Gus dit qu'elle est, je trouve cette expression magnifique, elle est la compagne en pointillé d'André. Et de digression en à côté, Gus dévoilera comment Pierre, un déserteur, deviendra leur compagnon de route. Il dévoilera aussi sa chute vertigineuse, une nuit glacée, sous un réverbère d'une cité miteuse où les ouvriers algériens traînent leur misère et parfois leur révolte. Enfin, il racontera un autre chemin recouvert de neige où, accompagné d'Abderrahman, un combattant du FLN, les trois hommes fuient leur destin. Mais est-ce vers leur liberté ou leur mort? Ça, on va certainement pas vous le dire. Amateur de thriller et de page-turner, passez votre chemin. Ou plutôt non. Découvrez ce qu'une plume subtile, comme celle de Patrick Pécherot, légère, tendre, peut être aussi efficace pour vous raconter les noirceurs et les fracas de l'existence. Et, entre autres, les rêves brisés d'une génération. Des petits détails, une chanson de Gilbert Bécaud qui, dans le poste et qui flotte dans l'air, une réclame pour la pie qui chante, les ouvriers et leurs musettes sur le dos, les tiges partagées, les semelles percées des godillots, les mains gercées à force de laver à l'eau froide. La justesse de ton est dans chaque image, chaque son, chaque voix. Par contre, est-ce qu'il faut que je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est que la musette d'un ouvrier, hein, le petit sac qui tenait avec un petit peu ce qu'il avait à manger, à boire et ses quelques outils. Et les tiges, c'était les clopes, les cigarettes. C'est des mots qu'on a un petit peu oubliés, mais que Patrick Pécherot emploie à bon escient dans ce roman. Dans ce roman, on va aussi trouver la gégène, les corps mutilés, les abominations commises par les deux camps en Algérie, les blessures indélébiles à l'âme. Et l'évocation de cette époque se construit vraiment en petites touches, en parenthèses, en digressions, en chemin de traverse, ce que Patrick Pécherot appelle l'infime fêlure sur le vase, la minuscule fissure dans le mur. Et l'écrivain aime à évoquer ces époques révolues et ces minuscules existences qui n'ont aucune place dans les livres d'histoire. En gros, la vie des hommes, la vie de tous les jours, aussi légère que des flocons, dit-il, des souffles, des fumées. Et là, on explique le titre, puisque c'est la signification du titre Evel en hébreu, ça veut dire souffle, fumée, des choses très très légères. Et ça, l'auteur excelle à nous en raconter les infimes traces, avec un immense talent. Evel, c'est un mot tiré d'un texte biblique, l'Ecclésiaste, et ça évoque aussi les vanités face à la brièveté de l'existence terrestre. Et ça, je trouve que pour un roman qui se passe en 58, et 60 ans après, c'est encore très actuel. Donc, ce livre s'appelle Evel, l'auteur en est Patrick Pécherot, et comme je l'ai dit au début, il vient de paraître à la série noire. C'est aux éditions Gallimard. Et on va écouter une musique.
Un peu de musique. Alors, on aurait pu mettre effectivement Gilbert Bécaud, mais c'était pas très rock. Donc, on va mettre,
du jazz.
Du jazz, qui est pas très rock non plus. Un enregistrement de John Coltrane en 1958, puisque une grande partie du roman se passe en 1958. L'album, c'est Soul Train. John Coltrane est toujours dans le groupe de Miles, mais il enregistre ce superbe album avec Red Garland au piano, Paul Chambers à la contrebasse et Arthur Taylor à la batterie. On va écouter une ballade écrite par le trompettiste Billy Erskine dans les années 40 qui s'appelle I Want to Talk About You, John Coltrane. Thank you. Voilà, c'était le saxophone magique et merveilleux de John Coltrane.
On continue par...
un roman de Parker Bilal qui s'appelle Le Caire, toile de fond, qui est paru dans la collection Cadre noir du Seuil et qui est traduit de l'anglais par Gérard de Chergé. Alors, ce roman commence par un prologue assez surprenant qui ressemble presque à du DOA, période Pouctou, on vous en parlait dans cette émission. Puis, après ce prologue, on retrouve le détective privé créé par Parker Bilal, Makana, pour sa quatrième enquête. On a avancé dans le temps, la série avait débuté en 1982, enfin du moins les faits se passaient en 1982. Là, nous sommes en 2004.
Ça avançait vite, là, 20 ans, plus de 20 ans.
En quatre romans, les Américains de Bush sont en Irak pour cette guerre bizarre qui n'en est pas une, tout en étant une quand même. Alors, on va faire un bref retour sur Makana, pour ceux qui n'auraient pas entendu les...
Puisque c'est un personnage récurrent qui est depuis le début.
Voilà, alors c'est un ancien flic soudanais qui a fui son pays, donc le Soudan, au début des années 80, avec l'arrivée des islamistes au pouvoir, et consécutivement au décès de sa femme et de sa fille, et surtout parce que c'était un très bon flic, mais il était incorruptible et très peu pieux, au regard des fondamentalistes au pouvoir.
Oui, enfin, en gros, c'était un mécréant, quoi.
En tous les cas, pour eux, oui. Comme il ne pouvait plus survivre dans son pays, il a donc émigré vers le pays voisin, l'Égypte. Et il continue d'y faire ce qu'il sait faire, voire bien faire, le flic. Mais comme il ne veut pas être flic dans un pays étranger, ben, il est détective privé. Un privé un peu miteux, qui vit dans une vieille péniche dont il peine à payer le loyer, la location à sa voisine. Heureusement, au début du roman, il reçoit...
Ça s'appelle aussi des péniches sur le Nil ?
Oh, c'est pas tout à fait une péniche, mais c'est pas non plus un...
Ce n'est pas là, on va dire.
Ouais, c'est un des mots qu'emploie le traducteur, mais il y en a plusieurs autres pour définir. C'est un bateau plat avec plusieurs niveaux. Donc, au début du roman, c'est bien pour lui, il reçoit une très bonne avance d'un certain Aram Kassabian, qui est un riche marchand d'art au Caire, donc. Il reçoit cette somme pour une affaire que Makana va trouver dès le début un peu bancale. Mais bon, il n'est malheureusement pas en mesure de refuser cet argent.
C'est une offre qu'il ne peut pas refuser.
Voilà. En fait, il va être payé pour retrouver une toile d'un peintre allemand qui s'appelle Franz Marc, qui a vraiment existé. En fait, plutôt, il devra débusquer un colonel iranien qui s'appelle Samari, qui l'a fait rentrer illégalement en Égypte. C'est une toile qui a été escamotée au Koweït lors de l'invasion irakienne, quelques années avant. Mais Makana va vite se rendre compte qu'il n'est pas le seul à chercher la toile et le colonel irakien. Ce colonel irakien est sur la wanted list des services secrets américains, et aussi sur celle un peu plus officieuse des contractors, ces fameuses milices de mercenaires à la solde du gouvernement américain, mais avec une très très grande autonomie qui leur autorise tous les trafics et toutes les malversations qu'ils veulent bien commettre. Et il ne se gêne pas. Makana, lui, ne va pas être très à l'aise dans le milieu upé-kérote des marchands d'art. Son costume fait un peu tâche. Il va rencontrer des ministres, des militaires, des hommes d'affaires, des marchands ou des trafiquants. Voilà qui, tout de suite, va faire penser à de la corruption et à des coups fourrés, bien évidemment. Makana ne passera pas très loin de se faire séduire par une belle brune qui, dans un roman américain, aurait tout de la femme fatale. Et d'ailleurs, en fait, dans ce roman-là, elle a tout de la femme fatale. Les morts vont se succéder. En bon tough guy, Makana prendra plus de coups qu'il n'en donnera. Mais il réussira, bien entendu, à démêler toute l'affaire. Comme dans tous les romans de la série, j'en parlais juste avant, la corruption des hommes politiques tient une très grande place. Mais dans celui-ci se rajoute une vision très différente de la guerre d'Irak. On est loin des comptes rendus de nos télévisions d'époque, ou même de maintenant. L'intervention des Américains, vue du point de vue des Arabes, est assez différente. Tant du point de vue des gens de la rue, qui ne comprennent pas ce que les Américains viennent faire là, que du milieu des dirigeants qui cherchent, eux, à se placer pour l'après. Parce qu'ils ont bien vu, ils envisagent ce qui va se passer, donc ce qui s'est passé, puisque maintenant on est en 2018 par rapport à 2004. Ou ces gens, en fait, ou tous les types de magouilleurs qui se placent pour
s'enrichir.
Que la guerre enrichit, et il y en a plein. On rejoint aussi la vision très acerbe de DOA, je l'évoquais au début, sur tous ces mercenaires qui prennent part à ce conflit de façon très officielle, et en même temps officieuse, et qui se font du beurre sur le dos des contribuables américains, qui les payent, et sur celui des locaux qu'ils escroquent. Et puis il y a Makana, avec sa façon de déambuler dans la ville, à pied, en voiture. Makana ressemble de plus en plus à un Philippe Marlowe du Caire, tout comme son alter ego de Los Angeles, son indéfectible probité est soumise à de très nombreuses tentations. Parker Bilal revient aussi par bribes sur le passé de son héros au Soudan, là, le décès de sa femme. On appréciera aussi beaucoup, et ils reviennent de plus en plus souvent et de façon plus importante que dans les précédents romans, les seconds rôles. Il y a le Simbad, le chauffeur de taxi, pratiquement assigné à Makana. Il y a Ali, le garagiste intello, qui fait garagiste parce qu'il ne peut plus exercer son métier. Il y a Oumali, c'est la femme, c'est la logeuse. Et puis il y a la petite fille Aziza de sa logeuse. Il y a aussi les flics. Il y a un flic qui est récurrent, qui revient tout le temps, qui harcèle en permanence Makana, le détective donc. Mais en fait, ils ont tout le temps besoin de lui parce que lui, il peut aller dans des endroits où les flics sont repérés. L'intrigue est vraiment très bien maîtrisée. Il n'y a plus les facilités qu'il y avait dans les deux premiers. Elle flirte parfois avec le thriller dans la tension narrative, dans la bonne acceptation du terme. Donc, on peut déjà, d'ores et déjà dire qu'il y a de fortes chances qu'on retrouve Makana et Parker Bilal, donc qu'ils reviennent faire tous les deux un petit tour dans notre onde noire.
Il te réjouira en même temps. Voilà, après, on se retrouve dans notre deuxième partie d'émission, après les informations, avec un invité très spécial. À tout de suite.